là là, ça me stresse.
Ça vous stresse.
Le totem.
Ouais. Bonjour Denis Brognard.
Je vais mettre mes mains comme ça alors, hein. Comme le totem.
Ça y est, c'est reparti pour une nouvelle aventure de Koh-Lanta, avec toujours la même excitation.
Toujours la même excitation parce qu'on garde ce qui fait la force de ce programme depuis 18 ans maintenant.
Vous n'en avez pas marre ?
Mais non, j'en ai pas marre.
De toute façon, si on avait marre, vous ne le diriez pas.
Bah si, je ferais autre chose.
Ah oui ?
Bah, ou alors, ça sous-entendrait que je n'ai pas d'autres propositions. Mais non, franchement...
Vous en avez d'autres ? Non.
Ils ont proposé Motus, mais c'est moins fun.
Non mais tu sais, c'est toujours la question. Bah si, tous les patrons de chaîne m'appellent, toutes les radios me demandent. Non, mais j'aime vraiment Koh-Lanta parce que ça correspond à l'ADN de ce qu'est un peu ma vie. Et puis ce que j'aime surtout... Et
vous mangez que du riz ?
Non, je mange aussi des insectes et des vieux barracuda. Non, j'essaye de tout manger. Mais c'est surtout qu'on essaye d'innover à chaque fois.
Vous participez aux sélections ? J'imagine qu'il y a des castings.
Quoi, tu veux passer le casting, Anne ?
Elle me dit ça avec un grand sourire. Vous participez ? Denis, est-ce qu'on peut...
Anne, tiens pas un quart d'heure.
Ah, non, mais j'ai même refusé de faire Fort Boyard, donc je ne peux pas aller à Koh-Lanta.
J'imagine Anna à Koh-Lanta, elle serait pas mal.
Ah bah,
le seul chose qui m'intéresse là-dedans, c'est de maigrir.
Mais c'est ça.
Mais sinon...
Oui, mais alors, Anne, malheureusement, on maigrit à Koh-Lanta.
Mais après, on reprend très
mais
vite.
Comme quand on est éliminé, on double la dose de Nutella et de tout le reste.
Ah bon,
on regrossit.
C'est vrai.
Non, c'est pas une bonne méthode.
Pour...
C'est de manière éphémère, on maigrit, mais c'est pas durable.
Il y a quelque chose qui m'intrigue, Denis Brognard, dans Koh-Lanta, c'est que vous avez toujours une chemise impeccable. C'est-à-dire les candidats, ils sont
dégueulasses.
Et vous avez une chemise en lin
propre. Il y a un assistant chemise qui vous l'étend au fur et à mesure. C'est pas possible.
Alors
fait,
c'est vrai que
il fait chaud.
Mais sur certaines épreuves, je peux utiliser, consommer, abîmer, tremper 4 ou 5 chemises.
Ah,
ça c'est
voilà.
Vrai. Donc il y a des petites pauses.
Les dessous de l'écran.
Vous préparez spécialement Denis Brognard pour Koh-Lanta. Vous faites 6 repas par jour les mois qui précèdent. Vous faites comment vous faites ?
Mais non, parce que je vous dis, moi je mange bien. On a une bonne équipe sur Koh-Lanta. Voilà, donc c'est ce que je dis toujours. Il faut imaginer que les techniciens, que les 100 personnes, 150 personnes qui travaillent sur le tournage travaillent souvent de tôt le matin à tard le soir. Donc voilà, il y a un confort, il y a une vie parallèle aux aventuriers de Koh-Lanta dans laquelle, entre guillemets, notre existence est normale avec 3 repas par jour.
Et vous n'avez pas
avec un bon lit.
De culpabilité ?
Aucune.
Ah bon ? De manger si près d'eux ?
Mais alors, j'ai aucune culpabilité et je déteste un mot quand on m'interroge, quand on me dit « mais vous n'êtes pas sadique ». Mais non, on n'est pas sadique. Il y a 25 000 personnes chaque année. La première année, on pourrait le comprendre en disant « on ne sait pas ce que c'est ». Mais là, ça fait 18 ans que ça existe. On en est à 24 saisons, puisqu'il y a des années où on a 2 saisons de Koh-Lanta. Et vous avez toujours autant de gens qui veulent y venir. Et vous avez toujours autant de gens qui, quel que soit le résultat, quand ils ont participé à Koh-Lanta, considèrent cette aventure comme l'un des plus grands moments de leur vie. Mettent ça généralement après leurs enfants et en fonction de la réussite de leur mariage, avant ou après leur mariage.
Ah, ouais, une vie incroyable, ces gens.
Ils doivent aimer leurs enfants, en tout cas. Ouais.
C'est vrai que des fois, le mariage, ça ressemble un peu à Koh-Lanta.
Allez, vas-y, c'est parti.
Mais par exemple, cette phrase, le conseil à trancher, c'est non, la sentence est irrévocable. C'est vous qui avez inventé cette phrase,
ouais,
ou alors c'est dans la version anglaise.
On y a réfléchi et c'est vrai qu'au départ, je me souviens du chef de projet de Koh-Lanta à TF1, Christian Lebozec, pour ne pas le nommer, qui m'a dit il faut qu'on trouve des formules choc, des formules qui reviennent d'une saison sur l'autre. Et, au départ, ils étaient 20, à la fin, il n'en restera qu'un. Mm. Ça, c'est une phrase culte.
Mais faites-la avec la voix, parce
mais
que
oui.
Là,
au départ, ils étaient 20. À la fin, il n'en restera qu'un.
J'ai peur.
Voilà, c'est comme ça.
Non, mais
imaginez, Anne, les aventuriers de votre tribu ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable.
Oh, la vache, alors,
j'ai
en train de mourir.
Et là, avant de partir, la pauvre Anne qui pleure dit... Vous avez peut-être quelques mots à leur dire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui ont décidé de vous éliminer?
Je trouve ça pas juste parce que il y en a à qui j'ai donné à manger quand j'avais rien. Mais je suis contente d'avoir fait l'aventure. Ça m'a appris sur moi et sur la nature humaine et ses connards.
Bon, on la prend pour la prochaine saison, c'est sûr.
Vous attendiez, Denis Brognard, à ce que certaines de vos expressions deviennent cultes? On vous les réclame dans la rue parfois?
Ouais, c'est rigolo. Le nombre de fois, on me dit vous pouvez faire une vidéo en disant ah. Le fameux
ah
qui est devenu viral.
Mais pourquoi qu'est-ce qu'il a votre
aussi.
Ah, il est normal.
Mais non, mais parce que régulièrement, en gros, quand on essaie de me chanter Ramona et de me raconter une bêtise sur Koh-Lanta, notamment au conseil, je fais ah. Ça veut donc dire.
Vous faites
que...
ça avec vos enfants aussi quand ils vous racontent n'importe quoi?
Bah ouais, je le fais souvent d'ailleurs.
Ouais, en fait.
et de plus en plus. Donc c'est devenu viral sur les réseaux sociaux avec quelqu'un qui a fait un espèce de rap avec une compilation de tous ces.
On va écouter.
Ah.
quelle équipe réactive. Ah. Denis Brognard, Jérémy Lorca a des choses à vous dire.
Oui, Denis Brognard, je suis ravi de vous rencontrer, mais je dois vous avouer quelque chose qui va certainement surprendre tout le monde ici. Je sais que vous allez être très très étonnés les amis, mais je crois pas que je suis fait pour faire Koh-Lanta. Ah non, non, moi je me souviens.
Moi j'aurais cru. Pourquoi?
C'est vrai, bah ouais, mais moi aussi.
Vous avez déjà la barbe de 3 jours, c'est qui vrai, vous bah... va bien, donc c'est pour ça.
Merci beaucoup. Ah non, non, non. Moi,
attends, faut pas lui faire trop de compliments parce qu'après...
J'ai la grosse tête. Non mais moi je me souviens d'un épisode où un candidat emblématique répétait à un de ses potes pour le motiver. T'es un guerrier, t'es un guerrier. Et moi je suis pas un guerrier. J'écoute Céline Dion. Pour que tu m'aimes encore. Tu connais cette chanson, Jean-Philippe, Pour que tu m'aimes encore?
Oui.
Je deviendrai ces autres qui te donnent du plaisir. Vos jeux seront les nôtres si tel est ton désir.
Voilà.
En tout cas, Denis Brognard, je ne pense pas avoir les prédispositions pour être le bon aventurier. J'ai eu une souris chez moi. J'ai déménagé après avoir poussé un cri très très viril. Allez. Donc imaginez-moi dans la jungle, je tiens pas 2 secondes. Déjà les logements sont très pauvres en déco. 3 branches d'arbres pour faire un toit, soit. Des feuilles de bananier pour faire un lit, passe encore. Mais même pas un petit chandelier sympa ou une table de nuit avec un joli vase. Comment survivre dans des conditions pareilles? Et les fringues, Denis, les fringues, je sais pas qui est le styliste, mais c'est pas foulé. Un t-shirt, un bandana pour 3 mois. Moi, je pars en week-end, je prends 3 malins, un sac à dos. Et aucun produit d'hygiène, même pas de dentifrice, de déodorant, d'après-shampoing. C'est quoi l'intérêt de les mettre dans un décor Tahiti douche? On leur donne pas le Tahiti douche. Or, je dis pas, dans ma vie de tous les jours, parfois le matin, quand je suis hyper en retard et que j'ai pas le temps de prendre une douche, ça m'arrivait déjà de venir à la radio pas laver.
Ah oui. Hein?
Mais ça m'est arrivé quoi? 3-4 jours d'affilée maximum. Jamais 3 mois. En même temps, si je fais Koh-Lanta, je vais jamais tenir 3 mois. Hein. Je reste 4-5 le temps de bronzer, de perdre 3 kilos et je me casse parce qu'on fait un régime express dans Koh-Lanta. On connaissait le régime du camp, mais on ne savait pas de quel camp. Là, c'est le régime du camp des rouges ou des jaunes. D'ailleurs, je propose un nouveau camp, un mélange de rouge et de jaune, une équipe mauve, un camp arc-en-ciel avec que des gens de bon goût et des couples parce que là, c'est abstinence pendant 3 mois. Le problème de l'abstinence, c'est comme pour un régime. Si tu n'as plus rien à manger, tu es prêt à tout manger. D'ailleurs, on le voit, pour survivre, ils mangent des vers de terre. Alors, au lit, c'est pareil. Faut revoir ses exigences à la baisse. Bon, bah, il n'y a plus que toi, ça sera toi. Bon, ça, je vous avoue que c'est pas uniquement dans Koh-Lanta, c'est un peu l'histoire de ma vie à 5h du mat en boîte de nuit. Et je ne suis pas le seul, n'est-ce pas Laurent?
Qu'est-ce que
nous deux, on est les rois du bac à soldes. Une dernière démarque et c'est pour nous.
Moi, j'appelle ça le parc à ferraille.
C'est vrai?
Ouais.
Merci les gars.
Ah, bah, parc à ferraille, c'est quoi ça?
C'est quoi ça le parc?
Bah, c'est à partir d'une certaine heure en boîte de nuit.
Un certain degré d'alcoolémie.
Le parc à ferraille.
Voilà, ouais, c'était une expression qu'on avait entre potes.
Ouais, ouais. Bah, dis donc, c'est élégant.
Et bah, vous voyez, Jean-Philippe, c'est mon parc à ferraille.
Ah, alors, j'ai rien demandé, moi.
Et puis, il faut un mental d'acier pour participer à Koh-Lanta. Et je crois que je suis trop sensible. Ah, je peux provoquer un dégât des eaux en regardant un film, par exemple Titanic. Dès que j'entends iceberg droit devant, je chiale comme une madeleine parce que je sais ce qui va arriver derrière. C'est pas vivable. Alors, Denis Brognard, je vois dans vos yeux que vous avez décelé en moi un futur champion et ça me touche. Mais j'ai la flemme et pas la flamme. Du coup, forcément, la sentence est irrévocable. Merci beaucoup.
Généralement, on me parle de shampoing, on me parle de dentifrice, voire de papier toilette. Mais là, on est passé à un degré supérieur avec l'après-shampoing. C'est-à-dire qu'on a le cheveu soyeux sur Koh-Lanta.
Ah, évidemment.
Vous gardez des liens avec les candidats, Denis Brognard? Ça tisse des liens qui restent?
Ouais, je garde des liens. J'essaye d'avoir des contacts
beaucoup
réguliers.
Beaucoup de candidats
avec
sont passés parmi vous, finalement. Enfin,
plusieurs centaines. Donc, je ne garde pas des contacts avec tous. Mais avec certains, je prends l'exemple de Moundir, qui était dans Danse avec les stars il n'y a pas si longtemps. Voilà, on a des contacts de temps en temps. Dans les candidats qui reviennent sur cette saison, parmi les anciens, il y a des gens emblématiques, un Théoura, un Claude, avec qui je partage la passion justement du sport et de la course à pied. Voilà, en tout cas, ils ont la possibilité de me joindre quand ils le souhaitent, par mail, par téléphone, pour qu'on puisse discuter. Mais ils sentent, je crois, je l'espère, l'admiration que j'ai pour eux. C'est-à-dire que faire Koh-Lanta, c'est super dur, trêve de plaisanterie. C'est l'émission la plus difficile, celle qui met des anonymes dans les conditions les plus précaires. Et rien que pour ça, eh ben j'ai de l'admiration pour eux, quel que soit le résultat qu'ils ont obtenu.
Au niveau psychologique, c'est très dur.
Ouais, hein. C'est super
Moundir,
dur.
Il avait souffert de ça, du manque de nourriture, ouais. Et tout. Moi, ça me taperait sur le système, je vous le dis de suite. Ne me regardez pas comme ça, parce que je n'irai pas.
Koh-Lanta est un condensé de notre réalité. C'est vivre dans un monde virtuel que de penser que dans la vie, il n'y a pas de compétition des forts et des faibles.
Bah, évidemment. Ceux qui pensent que, justement, ils vivent dans un monde de bisounours où tout le monde trouve sa place naturellement, sans faire d'ombre aux voisins, ces gens-là se trompent complètement. Koh-Lanta, effectivement, c'est en accélérer ce qu'on voit dans la vie, mais dans la vie sportive. Quand vous avez une finale du 100 mètres avec 8 concurrents face à face, ils rêvent tous d'être sur le podium, ils rêvent tous de gagner, mais il n'y a qu'une place de gagnant, il n'y a que 3 places sur le podium. Dans la vie, regardez, dans une rédaction comme à Europe 1, bah, tout le monde a envie de progresser, tout le monde a envie de faire les meilleurs reportages, tout le monde a envie de faire les déplacements les plus intéressants. C'est comme ça, c'est la vie. Donc les gens qui me disent « Ah ouais, Koh-Lanta, c'est quand même une compétition, c'est dur. » Bah oui, c'est dur, mais la vie est dure globalement. Enfin, moi, c'est ce que j'apprends à mes enfants.
Rien que vous entendez entendre, j'ai envie de faire des pompes. Là. Je vous jure,
vous m'avez motivé. Mais c'est vrai que vous m'avez touché sur un sujet sensible parce que les gens qui me disent oh, mais ouais, mais vous ne vous rendez pas compte, ils sont en opposition. Mais ouais, mais c'est ça la vie, ma chérie. C'est vrai, c'est ça.
Alors aussi, vous avez perdu votre père très jeune, en fait.
Ouais.
Et vous dites que ça vous a marqué. Dans le fait de savourer la vie, de profiter, de...
Bah, ce qui m'a marqué, effectivement...
Votre père est mort à 49 ans,
mon père est mort à 49 ans, c'est-à-dire que mon père est mort plus jeune que je ne suis aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent, putain, passer les 50 ans, quelle horreur. Moi, ça a été une forme de soulagement, c'est-à-dire d'atteindre cet âge que mon père n'a pas atteint à cause de ce foutu cancer. Et donc voilà, moi j'avais 25 ans, j'étais à l'armée, mon père était brillant, c'était mon guide dans la vie. Et ça l'est toujours, mais c'était en 92, donc ça remonte à il y a un moment. D'où je suis totalement... Je crois que c'est aussi après ça que je suis devenu un peu hypochondriaque. Et qu'aujourd'hui, je m'investis autant que je peux le faire pour la recherche contre le cancer à travers une fondation dont j'ai la chance d'être le parrain qui s'appelle la fondation ARC. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, un cancer sur deux est soigné. En 2025, si la recherche continue à avancer comme ça, notamment sur les nouvelles technologies, on en soignera 2 sur 3. Et moi, ce qui à la fois me rassure, mais me rend triste, c'est quand un chercheur avec qui j'étais il n'y a pas si longtemps m'a dit « Mais le cancer qu'avait votre père, aujourd'hui, 99,9% de ce genre de cancer, on les soigne. » Donc c'est vrai que c'est... Vous voyez,
c'est,
vrai
votre père, parler. C'est votre père qui vous a donné le goût de la randonnée. Vous faisiez des grandes balades avec lui.
C'est lui qui m'a donné le goût du sport. Le goût du tennis, le goût de la course à pied. Et il me disait toujours, ce qui compte, c'est pas l'attirail, c'est pas les fringues, c'est pas les chaussures, c'est les muscles et c'est la tronche. Et je garde toujours ça dans un petit coin de ma tête.
Votre maman était professeure de mathématiques.
Ouais.
Et ça vous aide à compter les points.
Alors, j'aurais tendance à vous dire que ça pourrait m'aider à me tromper. Parce que vous savez, quand vous avez une maman prof, on vous dit « Oh, mais c'est génial, comme ça, elle peut t'aider. » Mais quand vous avez besoin d'elle 5 minutes, ça dure 2 heures. Moi, je me souviens...
Donc, vous n'osiez pas lui demander de l'aide, en fait?
Si, parce que le mercredi après-midi, malheureusement, j'étais obligé de m'y coller. Je me souviens, elle faisait le repassage. On était dans le sous-sol de la maison, sans aucune fenêtre. Et aujourd'hui, encore, avec mes enfants, elle dit « Mais tu te souviens, mon chéri, mais tu adorais ça. » Et je détestais ça, le mercredi après-midi. C'était une angoisse. Il m'arrivait même de faire... Je m'endormais pendant qu'elle me parlait, parce qu'encore une fois, pour résoudre une équation qui ça aurait dû prendre 5 minutes, elle reprenait le début du cours de l'année précédente. C'est ça une prof de maths.
Génial.
Elle me dit, et elle passait son temps à me dire, chérie, pour réussir dans la vie, la rigueur, il faut être rigoureux. Mais moi, je suis bordélique, je suis pas rigoureux parce que j'ai pris le contre-pied. Donc, avoir une maman prof de maths, parfois ça aide. Moi, ça ne m'a pas forcément aidé. J'ai eu 4 en maths au bac.
Oh,
j'ai eu mon bac quand même.
4 en maths ?
Un bac-C.
Elle vous a dit quoi ?
Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Elle ne m'a rien dit parce qu'elle était contente que j'ai mon bac à l'arrivée. Mais elle continue
sport,
à dire que j'étais plutôt bon en maths.
En sport, vous avez combien, Denis Brognard, au bac ?
Je crois que j'ai eu 18 ou 19.
Ah ouais ?
Ouais, non, heureusement que j'avais les points du sport.
Moi, j'ai une mauvaise note en maths et en sport.
En sport, vous avez une mauvaise note ?
Oui, j'ai des points négatifs.
Rappelez-moi ce que vous avez fait comme études ?
Moi, j'ai fait Sciences Po. J'ai failli me noyer au bac piscine.
Mais oui, voilà.
Et moi,
elle a fait Sciences Po. Moi, j'ai eu mon bac à 4 en maths. Mais je tiens à le dire aujourd'hui. Anne Romanoff, je l'ai battue au grand concours des animateurs contre les enfants savants. On était tous les deux en finale. Mais la dame de Sciences Po, elle était derrière moi.
Il n'aime pas perdre.
On le voit.
Je déteste perdre.
Ah oui. Moi, j'aime pas perdre, mais vous êtes pire que moi, Denis Brognard.
C'est possible.
Alors, vous êtes belge et vous avez 23 ans, l'âge de ma fille.
Ah oui, oui.
Et votre mère est plus jeune que moi.
Ça commence bien.
Qu'est-ce que ça fait ce succès, Angèle, qui arrive comme ça, comme un ouragan là ?
Eh bien, je dirais comme un ouragan, c'est un peu violent, mais c'est un peu ça. Moi, je parle souvent d'un tsunami, mais positif.
Ah oui, c'est pas violent, un tsunami.
Non, mais positif.
Ah, positif.
C'est important de le dire.
Parce que c'est vrai que...
C'est une vague qui arrive, mais l'eau, elle est chaude.
Mais voilà, c'est agréable. Il y a des petits canards.
En plus, vous écrivez vos textes, vous composez vos musiques, vous produisez vous-même. Vous êtes fait connaître par Instagram.
Exactement. Je me suis fait connaître il y a maintenant, je pense, 3 ans, via Instagram, en faisant des petites vidéos où je faisais des montages.
Par exemple, il y avait un livreur Deliveroo qui arrivait, vous chantiez une chanson.
Après, il n'existait pas ce livreur, je l'inventais.
Ouais.
Et en effet, il y a eu ça, puis il y avait des reprises de tout genre, en français, en anglais.
Vous parlez beaucoup des réseaux sociaux dans vos chansons, et vous les dénoncez, et donc vous dites que sur Instagram, vous essayez de montrer des images de vous, pas forcément à votre avantage.
Ouais, après, c'est tentant de se rendre beau quand on est sur Instagram et quand on est tout le temps pris en photo ou filmé, donc évidemment, je ne vais pas m'en les dire, mais j'aime bien l'idée que... aussi sur Instagram, là où les gens vont avoir le réflexe de se montrer sur leur plus beau jour, avec des filtres, avec des montages, avec des poses improbables pour ne pas montrer le bourrelet qui dépasse, bah, d'essayer de se montrer aussi tel qu'on est, et c'est comme ça qu'on arrive à s'accepter.
Vous avez fait vos débuts alors en première partie d'un rappeur ?
Oui, d'un rappeur Damso. C'était un peu invraisemblable parce que, en fait, à la base, son équipe m'a contactée parce qu'il cherchait une claviériste pour avoir des musiciens. Et moi, j'ai répondu oui, mais j'étais en train de préparer ma tournée. C'était il y a un an, il n'y avait encore rien qui était sorti. Le single La Loi de Murphy allait sortir. Et donc, j'avais dit bah, oui, mais ça va un peu brouiller les pistes si je me présente comme chanteuse et puis qu'en fait, je suis musicienne. Parce que j'étais musicienne à la base. Et donc, musicienne, j'étais que pianiste. Et donc, il m'a dit bah, ok, bah, fais la première partie. Et donc, j'ai fait la première partie de Damso pendant 3 mois.
Et c'était partout, hein, vous l'avez suivi partout ?
Ouais, pendant 3 mois, j'ai suivi partout. On a fait des dates en. On a fait une date en Belgique à Forêt Nationale, qui est une grosse salle, et puis on a fait plein de dates à Paris.
Et enfin, la première fois, ça s'est mal passé, c'est ça ?
Parce ouais, que la première fois, c'était à Strasbourg. Ouais. Et en fait, je suis arrivée sur scène sans trop savoir dans quoi je m'embarquais, et je ne me suis pas présentée. Je suis montée, j'ai commencé à chanter, et les gens ne s'attendaient pas à me voir. J'ai entendu des cris, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, je me suis dit, bon, il faut que je continue. Puis au bout de la deuxième chanson, bah, en fait, je me suis dit, en fait, il faut que je me présente, il faut que j'explique aux gens.
Ouais.
Donc je me suis présentée, je les ai un peu chauffées, je leur ai dit voilà, vous êtes contents, je m'appelle Angèle. Et en fait, le fait d'être très honnête et de me présenter telle que j'étais, sans me la jouer
rappeur,
en fait, sans me la jouer pop, en me disant bah non, moi je m'appelle Angèle, je chante des chansons d'amour. En fait, ça passait beaucoup mieux que d'arriver, d'essayer d'imposer quelque chose que j'étais pas. Et mais ça, je l'ai appris au fur et à mesure des dates. Mais ça a été un exercice.
Ça vous a formé.
Ah mais tellement. Et puis aujourd'hui, chaque fois que je monte sur scène, le fait d'avoir des gens qui sont contents de me voir, parce qu'une première partie c'est très ingrat.
Vous
c'est...
le savourez.
Ouais, c'est...
Angèle, il y a beaucoup, beaucoup d'humour dans vos textes.
Oui, il y en a. En fait, c'est important. Je trouve que l'humour, c'est comme une arme, ou en tout cas une arme de défense, qui permet de... En fait, l'humour et l'autodérision permettent de garder un recul par rapport à ce qui arrive, par rapport aux événements et par rapport aux situations. Et en fait, avec l'humour, on peut aborder pas mal de sujets sans que ça soit compliqué, sans que ça frotte, en fait.
Qu'est-ce que vous avez de belge, Angèle, en vous ?
Bah, j'ose pas trop le dire, parce que du coup, ce serait critiquer la France, mais...
Dites rien, alors.
Non, allez-y, on est entre nous.
Je vais rien dire. Non, je crois qu'en Belgique, comme c'est un petit pays qui, en plus, est linguistiquement divisé, la culture est aussi divisée, et donc il y a cette sorte de méga modestie, mais parfois qui est encombrante, parce que parfois, on a tellement pas fier de nous qu'on se dénigre un peu. Et du coup, comme on n'est pas fier, on fait les choses un peu dans l'ombre. Et je crois qu'il n'y a pas la même fierté. Mais ce n'est pas pour critiquer la France. Ah je crois que c'est par rapport à tous les autres pays même qui nous entourent en Belgique.
Il y a l'humilité en Belgique.
Ouais, je crois.
Nous après, aussi, on est humbles. Hein. Nous aussi, hein. On vous a éclaté la Coupe du Monde et on le dit.
J'allais dire, personne n'a parlé de foot.
Oui. Bon. Est-ce qu'on parle de foot, Angèle ?
On n'a rien dit.
Parlons-en, ça vous fait du bien, allez-y.
Vous aimez le foot, Angèle ?
Non, mais j'aime bien la Coupe du Monde parce que j'aime bien le rassemblement de gens heureux. Alors moi, j'ai pleuré pendant la Coupe du Monde, mais de joie alors que j'étais en France. J'aurais dû être triste. Et j'étais tellement, je trouve ça tellement chouette de voir tout le monde réuni dans la rue et s'amuser. Moi, jusqu'à ce qu'ils brûlent des voitures, mais bon, ça, fallait que ça arrive. Mais avant, c'était super chouette et du coup, j'avais une petite larme et tout. J'étais très heureuse.
Eh ben, nous, on est très heureux d'avoir vous avoir reçu ce matin. Merci Angèle d'être venue. Alors, le 10 octobre dernier, vous avez publié 2 livres aux éditions de La Martinière, Émerveillement et Contemplation. Ça se lit dans quel ordre ?
Dans quel ordre ? Alors, Contemplation, c'est aux rencontres d'Arles, qui était une rencontre sur les pots de photographie. J'avais eu la chance d'exposer dans un grand local en bambou, fait par un architecte colombien, Simon de Vélez, des photos en noir et blanc tirées sur papier japonais fait à la main. Et donc, c'est ce livre de l'exposition qui a été repris. Émerveillement, ça couvre presque... de très nombreuses années de pérégrination dans la nature sauvage du monde. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs livres de photographies sur mes maîtres spirituels au Tibet, sur 108 sourires, sur l'Himalaya. Et c'est la première fois que je rassemble les images de l'Islande, la Patagonie, du Yukon que j'ai pu voir. Et je ne pouvais pas faire un livre sur l'Islande, ça n'avait pas de sens pour moi. Par contre, je me suis réveillé un matin d'automne en Islande, sur les hauts plateaux, avec un immense champ de lave et la neige qui était tombée. Et je me suis dit, pourquoi suis-je là, moi, moine bouddhiste ? Et je me suis dit, mais c'est l'émerveillement. devant cette immensité de la nature sauvage. Et je me suis dit, l'émerveillement, ça mène au respect. Le respect à l'idée de prendre soin à l'action. Donc on peut aussi non seulement émerveiller par les images, la photographie, mais inciter à protéger cet environnement si fragile.
Alors Mathieu Ricard, la photo, pour vous, c'est une passion depuis tout petit. Vous racontez que quand vous aviez 10 ans, vous photographiez des flaques d'eau.
Et oui.
Alors vous aviez un appareil photo et vos parents disaient bah, « Lui, il ne prend jamais des photos de la famille, il photographie que les flaques d'eau. »
Il ne faut pas compter sur lui pour les photos de vacances. c'est toujours comme ça.
Ouais. C'était un goût comme ça de la nature tout petit, en fait.
Alors oui, un goût de la nature tout petit.
Et de la photo.
Je suis devenu ornithologue à l'âge de 15 ans. J'ai appris la photo avec un photographe animalier, des pionniers en France, André Fatra. Donc voilà, j'ai toujours été profondément attiré par la nature. Et c'est une bonne chose. Maintenant, je m'en aperçois en voyant les études sur le fait que les enfants qui grandissent exclusivement dans les villes, c'est un article qui est paru dans le Lancet, une revue prestigieuse de recherche en médecine en Angleterre, ont une probabilité accrue de 10% de souffrir de schizophrénie et de dépression. Donc la privation de nature, disons, est néfaste au développement intellectuel, créatif, et même physique de l'enfant.
Vous avez 73 ans, oui. Vous n'êtes pas coquet, je peux dire votre âge.
Ah bah non, c'est trop... Là,
c'est râpé pour ça.
Et vous êtes devenu photographe finalement reconnu en 1993, c'est-à-dire il y a 20 ans en fait. À 50
alors oui,
ans,
alors au début, j'ai montré...
vous n'osiez pas montrer vos photos.
Alors je les ai montrées un petit peu à droite à gauche, on me dit, c'est bien gentil, c'est moins de bouddhisme, mais bon, ça... il n'y a rien à tirer de tout ça. Et puis un jour à New York, j'ai présenté ça à la Aperture, qui est une fondation pour la photographie. Et en fait, le patron ne voulait pas les voir. Il a dit, sa secrétaire va donc voir ça. Puis elle l'a appelé. Elle a dit, vous savez, il faudrait bien de descendre parce que c'est quand même pas mal, cette histoire du Tibet. Là. Donc du coup, j'ai fait un premier livre qui a été traduit en français sur l'esprit du Tibet. Et brusquement, je suis devenu officiellement photographe. Ceci dit, après 12 livres de photographie, il y a toujours des gens qui me disent « Ah, c'est bien, mais alors qui a fait les photos ?»
Oh, ça c'est très énervant.
J'ai pas le karma. Et même à l'exposition de Arles, j'avais calligraphié à la main des citations en bas des photos. Il y a quelqu'un qui me dit « Ah, j'ai vu, c'est formidable l'expo, vous avez écrit des phrases, mais alors qu'est-ce qui a fait les photos ?»
Mais parce qu'on vous connaît pas comme ça, en fait.
Ben oui, je fais ça va pas avec l'habit de moine, peut-être.
Et alors, ce qui est bien aussi, Mathieu Ricard, c'est que vous ne gardez pas vos droits d'auteur pour vous. Vous les donnez entièrement à votre fondation.
Ah ben non, il y a des autres, des gens qui vous disent « Ah, regardez, ces auteurs à succès, ils se remplissent les poches. » Et ben moi, je remplis les poches de ceux qui ont besoin. Et donc, c'est vrai que depuis 20 ans, nous avons créé Karuna Sechen, que j'ai toujours donné 100% de tous mes droits d'auteur, des livres, des conférences, etc. Et aujourd'hui, au travers de Karuna Sechen, nous avons la joie de pouvoir aider l'an dernier 380 000 personnes en Inde, au Népal, au Tibet, dans le domaine de la santé, de l'éducation et des services sociaux. Ce n'est pas du tout dans les régions bouddhistes, c'est là où il y a besoin, dans les campagnes du Jharkhand, du Bihar en Inde, dans les nomades, chez les nomades du Tibet. Et donc, c'est une grande joie de pouvoir être au service des autres.
C'est important pour vous de faire cette fondation, Mathieu Ricard ?
Oui, si vous voulez, quand j'ai passé 25 ans dans l'Himalaya complètement inconnu au bataillon et qu'un éditeur a eu l'idée de faire dialoguer avec mon père Jean-François Revel, au début j'hésitais un peu, j'ai dit oh là, j'ai des ennuis, je me retrouvais à la fin de ma tranquillité, mais je l'ai fait. Et puis quand j'ai vu le contrat, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça ? On ne peut pas faire une piscine en pente dans l'Himalaya, les Ferrari, ça ne circule pas, je n'ai pas besoin de tout ça. Donc je suis retourné voir l'éditeur, j'ai dit, écoutez, moi je veux absolument que je fasse un autre contrat au profit. Au début, c'était la Fondation de France, puis on a créé Karuna. Et j'avais rempli à l'époque, à la demande d'un journaliste, le questionnaire de Proust. Il m'a demandé, est-ce que vous avez un regret ? Et mon regret, c'était un tout petit peu d'avoir, pendant 25 ans, médité sur l'altruisme, la compassion, inspiré par mes maîtres spirituels, mais de ne pas avoir vraiment pu mettre les mains dans le cambouis, parce qu'avec les moyens dont je disposais, je voyais bien la situation, mais je ne pouvais rien faire. Donc quand des moyens sont venus vers moi, j'ai tout de suite idée, ben voilà, maintenant je sais, j'ai quelques moyens pour les utiliser. Puis des personnes nous ont rejoints, des philanthropes, des fondations. Et donc maintenant, nous apportons près de 3 millions d'euros par an dans tous ces projets. Et donc c'est une grande joie d'avoir pu mettre la compassion en action.
Mais est-ce que du coup, vous n'avez pas perdu votre tranquillité, Mathieu Ricard ?
Alors, je me dis toujours, est-ce que le moine et philosophe, c'était le début d'une immense opportunité ou le début de mes ennuis ? Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup bougé, alors que je ne bougeais pas beaucoup. Je suis allé 10 fois au Forum mondial de Davos. Qu'est-ce que j'ai à faire là-bas, on pourrait dire. Il m'est arrivé d'avoir 80 cartes d'embarquement par an. Je suis un peu honteux par rapport au réchauffement climatique. Bon, maintenant, j'ai beaucoup diminué. Mais bon, c'était des idées qui me sont chères, que je souhaitais partager. Des fois, on me demandait, mais qu'est-ce que vous venez faire sur un plateau télé ou à Europe 1? Je dis, ben, vous m'avez invité, je suis là. Si vous ne m'invitez pas, je reste tranquille, assis sur mon derrière, face à l'Himalaya. Mais c'est vrai, en plus. Donc maintenant, souvent, quand je suis là-haut, je me dis, mais pourquoi est-ce que je redescends? Et c'est quand même les projets humanitaires qui me disent, voilà, pour faire quelque chose, partager quelques idées. Enfin bon, au bout de 20 ans, ça va bien. Maintenant, peut-être tourner la page et passer à une étape plus tranquille pour ne pas mourir dans un aéroport et préférence dans l'Ermitage.
Vous êtes optimiste pour l'avenir du monde, Mathieu Ricard ou
Alors, j'en ai encore reparlé récemment à Yann Arthus-Bertrand à l'occasion de l'exposition à Good Planet, parce qu'il avait une phrase que j'aimais beaucoup. Il disait, il est trop tard pour être pessimiste. C'est vrai, il faut faire quelque chose. On ne peut pas s'asseoir sur son derrière à rien faire. Ceci dit, on ne peut pas s'empêcher quand même d'avoir des inquiétudes, parce que quand on voit les projections, 4 degrés, 4 degrés et demi, peut-être 7, le monde sera très différent de ce qu'il est. D'immenses souffrances, 250 millions de réfugiés climatiques, donc ce n'est pas rigolo. Ceci dit, l'humanité survivra, ce n'est pas la fin du monde, mais beaucoup de souffrances. Donc, il faut rester optimiste, parce qu'un optimiste, c'est celui qui dit « Bon, ça ne marche pas de ce côté-là, qu'est-ce qu'on fait ? » On essaie 100 solutions différentes, on essaie de mobiliser, soi-même de faire quelque chose. Le pessimiste, il dit « C'est foutu, tout le monde est nul, moi je suis impuissant aussi, donc on laisse faire. »
Et donc vous prenez l'optimisme, Mathieu Ricard ?
Il faut un optimisme constructif, pas un optimisme naïf, il ne faut pas se voiler la face, au contraire, voir les choses. D'ailleurs, il y a des études psychologiques qui montrent qu'en fin de compte, les optimistes sont beaucoup plus objectifs. Parce que, ah bon, il y a ça, il y a ce problème, là, il y a une telle solution. Le pessimiste, il dit « Ouais, tout ça, c'est des blagues, de toute façon, ça ne marchera pas.
» Alors, vous n'avez pas de portable dans l'Himalaya, Mathieu Ricard
ou... Alors, si, parce que déjà, pendant 8 ans, il y avait l'insurgence maoïste et l'abbé du monastère m'a dit, il faut que tu aies un téléphone parce que, bon, c'est un peu risqué. Quand on va au Tibet et qu'on cherche à quelqu'un pour voir faire une école et qu'on conduit 10 heures dans des routes cabossées, il vaut mieux savoir si la personne est là ou pas. Donc, c'est quand même très utile comme outil.
Et donc, vous avez un ordinateur aussi. Vous arrivez une mésaventure, c'est que vous aviez économisé votre premier ordinateur et il y a un moine qui a renversé de la farine dessus. C'est quoi cette histoire?
Ah oui, alors il voulait. Ben oui, il ne sait pas ce que c'était. Alors il est passé et puis il avait c'est de la farine d'orge grillée qu'on mange le matin. Donc il a saupoudré un peu en passant. J'étais assis par terre sur le clavier. Et là, je veux dire que la moutarde me montait au nez.
Et là, il n'y avait plus de bouddhisme, il n'y avait plus de compassion. Il y avait
ben si, mais ça n'a pas duré. Ah voilà, il m'a tout de suite dit ah, tu te mets en colère quand même.
C'était pour vous tester.
Mais bien sûr.
Ah, ben voilà.
Qu'est-ce que ça vous fait d'être devenu une espèce d'autorité morale, Mathieu Ricard ?
Vous en tirez... Non, pas,
non, mais vous en tirez une espèce de fierté ? Ça vous ennuie ? Ça vous fatigue ?
Non, quand on me dit le moine hyper-médiatisé, je trouve ça un peu agaçant, parce que d'abord, je ne passe pas tellement de temps que ça en France. Bon, ben, on me demande de venir de temps en temps.
Bah c'est par rapport aux autres moines, en fait, je pense.
Ah non, ils sont ravis, ils disent « Ouais, vas-y, fonce !» Non, je pense que voilà, c'est un côté très superficiel. Mais je ne me prends pas la tête parce que j'ai vu ça avec le moine et le philosophe. J'étais complètement inconnu. Mais alors, plus inconnu que ça, c'est grave.
C'était il y a combien de temps, le moine et le philosophe ?
C'était il y a 21 ans, 1997. Et du jour au lendemain, parce qu'on a fait, alors là, en 3 semaines, toutes les émissions possibles et imaginables. Il y avait des gens qui vous arrêtent dans la rue. « Est-ce que je peux vous emmener quelque part ?» Ben, je viens d'arriver. « Ben, ça fait rien, on fait le tour du pâté de maison ensemble. » Donc d'un seul coup, vous devenez un visage public. En plus, moi, habillé comme je suis un peu un drapeau ambulant. Donc, elle vous dit, bah, écoutez, moi, je suis la même personne. Je n'étais pas spécialement génial avant, je ne suis toujours pas. Je suis ce que je suis, j'ai fait ce que j'ai fait. Donc, voilà, vous vous dites, bah, c'est très, très artificiel.
Vous n'en tirez aucune vanité?
Bah, non, j'essaie au plus possible de ne pas tomber dans ce piège, parce que ça ne rime à rien, en plus, la vanité. On dit dans le bouddhisme qu'il vaut mieux... Des critiques qui font sortir les défauts cachés, parce que là, on peut y remédier, que des louanges qui font gonfler le ballon de l'arrogance et du narcissisme. Alors ça, le narcissisme, c'est pas mon truc.
Bah, c'est pour ça que je leur fais des critiques. C'est ça.
En fait, Anne, vous êtes bouddhiste, en fait.
L'épidémie du narcissisme, c'est grave et c'est une catastrophe.
Mathieu Ricard, ce livre que vous avez écrit avec votre père, c'était une forme de retrouvaille aussi, parce que j'imagine que lui... grand intellectuel, philosophe, homme un peu mondain quand même, qui était vraiment dans la société, d'avoir un fils qui s'est comme ça exilé sur les montagnes. Il y a eu un moment où, il a dû pas comprendre, non ?
Oui, il n'a pas compris du tout. Et j'ai même appris par son ami Olivier Todt qu'il avait, quand je lui ai annoncé que j'allais partir, au lieu de continuer à faire un post-doc à Harvard.
Oui, parce
ou
que vous aviez un niveau d'études très élevé, Mathieu Ricard.
J'ai venu finir ma thèse en doctorat, ma thèse d'État, et donc je devais faire un post-doc aux États-Unis. François Jacob, mon patron, voulait m'envoyer là-bas.
Un doctorat en quelle matière c'était ?
En génétique cellulaire.
D'accord.
Et donc là, bon, j'ai pris la poudre d'escampette, j'ai fait mon post-doc dans l'Himalaya. Et quand j'ai dit ça à mon père dans une promenade en forêt, silence, consterné, il Ben bon. Et puis, son avion, Olivier Todd, m'a dit qu'il a été chez lui, il a pleuré. Donc, ceci
il
n'a
pas pleuré devant vous.
Non, alors moi, j'horreur des drames. Et j'essaie d'éviter tout ça. Donc, et plus tard, quand on a fait le moine et philosophe, il a dit à un journaliste, ben, Mathieu avait 26 ans, après tout, c'était un adulte, il pouvait décider. Donc, j'ai très reconnaissant qu'il ne fasse pas de drame. Puis, il est venu me voir en Inde, il a vu que je ne fumais pas la moquette, que tout se passait bien, que j'étais très heureux. Finalement, qu'est-ce que des parents peuvent souhaiter de mieux que leur enfant s'épanouisse ? Alors qu'il y a tellement de parents qui sont tellement tristes de voir que ce n'est pas le cas. Donc ce dialogue, en fait, c'est et au bout de 20, donc 25 ans, un jour, on venait juste d'avoir un téléphone au monastère, quelqu'un téléphone, un éditeur, en me disant « Est-ce que vous voudriez faire un dialogue avec votre père ?» J'ai dit « Quoi ?» Jean-François Revel, avec un moine bouddhiste, même si c'est son fils, je lui ai demandé lui, puis je me dis « Je n'ai plus jamais entendu parler d'eux. » Sauf qu'ils m'ont rappelé 15 jours après en disant « Il a accepté ». Je dis « Oh là là, maintenant c'est moi qui suis en difficulté ». Donc je me rappelais, mais quand j'ai joué au foot, j'ai dit « je joue sur mon terrain, qu'ils viennent au Népal ». Et l'éditeur en question, finalement, n'a pas pris le lit parce que mon père avait un agent littéraire qui demandait des sommes fabuleuses. Et l'éditeur a dit « Vous savez, M. Revel, bien sûr, mais le fils, on ne sait pas, peut-être qu'il ne sait pas écrire un mot ». Donc, mon ami Nicole Lattès a dit tout de suite, je prends. Donc, mon père est venu au Népal 10 jours, on s'est promené dans la forêt, on a parlé 4-5 heures par jour, on a enregistré. Et en 3 semaines de retravail, c'était plus ou moins fait. Et voilà, c'est vrai que c'était un beau livre.
Et c'est vendu à combien d'exemplaires, ce livre ?
Je ne sais pas, en France, 350 000 ou quelque chose. Wow. Mais surtout, ce n'était pas tellement des retrouvailles entre père et fils. Bien sûr, ça nous a beaucoup rapprochés, sentiment de complicité quand on était en Amérique. C'était presque lui qui faisait l'apologie du bouddhisme. Genre, il dit, c'est mon boulot, là. Mais surtout, si vous voulez, c'était vraiment une rencontre intellectuelle. Il voulait savoir...
Comprendre.
Pourquoi le bouddhisme, pas seulement ce que je faisais moi, mais pourquoi le bouddhisme devenait populaire. Et je disais, les Grecs se posaient 3 questions. Que puis-je connaître ? Comment mener mon existence ? Et comment diriger la cité ? Que puis-je connaître ? Et il dit, la science, en gros, a pris le relais. Comment diriger la cité, c'est-à-dire c'est la démocratie est là, mais comment mener mon existence ? D'après mon père, après Spinoza, les philosophes contemporains, ils ont complètement évacué la question en faisant des constructions philosophiques incompréhensibles. Et ils trouvaient que le bouddhisme, en tant que philosophie,
répondait à ces 3 questions.
Apportait une réponse et un besoin de manière qu'ils pouvaient utiliser de manière aussi séculière, comme art de vivre, qui n'est pas tout le bouddhisme, bien sûr, loin de là. Donc, si vous voulez, il était aussi intéressé intellectuellement. Donc, c'était une rencontre intellectuelle. Et c'était un moment de très grande joie qui nous a beaucoup rapprochés.
Toujours avec Jean-Philippe Busini,
toujours là,
Sacha
on est là.
Judesco,
toujours
Ben H.
Rebonjour.
Et nous accueillons maintenant une comédienne de théâtre, de télé, de talent. Elle est aussi célèbre pour sa bonne humeur à toute épreuve que pour son rire légendaire, chaleureuse, drôle, touchante et surtout terriblement humaine. On aimerait tous savoir comme meilleure amie ou comme maman. Elle sera en tournée dans toute la France avec son formidable spectacle Vive Demain. Merci d'applaudir chaleureusement l'excellente Michèle Bernier.
Merci, bonjour. Je peux rajouter un truc ?
Oui.
Et la maîtresse qu'on aimerait avoir.
La maîtresse qu'on aimerait avoir. Ben oui, j'ai oublié
bien
de
sûr,
le dire.
Bah
comment j'ai pu oublier de dire ça ?
Toujours, je suis comme si j'étais asexuée, mais pas du tout.
Non.
Non.
Vous êtes une femme, vous aimez ça.
J'aime ça.
Mais il faut le dire.
Mais non, mais on ne le dit pas assez.
Oui, voilà. Vous êtes un bon coup.
Il paraît.
Ah ben, ah, on est parti là-dessus tout de suite. Ah,
ah, ben, si on commence les vannes à l'apéro, qu'est-ce qu'on va faire après ?
Ah oui, moi aussi.
Ah, mais je sais.
Comment ça, vous savez ?
Ah bah, j'ai eu des échos.
Quoi ?
Ah, carrément. Et des vidéos aussi, hein. Même si je comprends bien, c'est une émission entourée de bons coups.
Alors, ça fait du bien de vous avoir avec nous en ces temps incertains, Michèle Bernier, parce qu'il y a le coronavirus, les grèves, les tempêtes, le 49-3. C'est pas la joie en ce moment, j'ai envie de dire vive demain.
Bah, écoutez, il faut tenir la rampe, hein, là. Hein.
Oui.
Donc, en fait, je me rends compte avec le spectacle que c'est vrai que ça fait du bien d'entendre que ça peut aller mieux. Voilà, parce qu'en ce moment, tout le monde s'épuise à devenir vraiment tellement morose que ça me rend trop triste.
Quand vous êtes là, on oublie tous nos problèmes, Michèle Bernier, l'espace d'un instant. Est-ce que vous aussi, vous oubliez vos problèmes en votre propre présence ?
Alors, elle est bien celle-là. J'aime beaucoup cette question. J'arrive des fois à oublier, mais je suis pas quand même... Je suis un être humain, donc j'ai les peines et les doutes m'assaillent souvent.
Sur scène, c'est là où vous êtes le plus heureuse, Michèle Bernier ?
Ouais, c'est un moment...
Dans un lit aussi ?
Voilà. Oh, dans un lit, mais voilà, je trouve qu'il y a plus de partenaires quand même sur scène.
Oui. Ah oui ? Parlez pour vous, sinon ça fait un grand lit. Hein.
J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de toujours positif quand même.
Parce qu'il y a quelques fois, vous avez des coups de mou. Enfin, j'ai pas dit des coups de molle, hein, on a tout connu ça. Non, mais...
C'est reparti. Vous avez dit que vous parliez pas de ma vie privée.
Oui, non, mais je... moi, je crois que c'est un peu une politesse d'essayer d'être optimiste vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Et puis, mes enfants, aujourd'hui, mes petits-enfants, les gens que j'aime. Et puis, moi, je suis heureuse de vivre. Donc, je vais pas me dire, oh, bon, non, non, ça ne va pas, ça ne va pas. Bien sûr, quelque chose qui ne va pas. Mais est-ce qu'un jour, tout est allé bien ? Je n'ai pas l'impression. Donc, je me dis, non, je suis assez gâtée par l'existence. Hein, donc, j'en profite. Je me fais câliner par elle tant que je peux.
Vous n'aimez pas dire que c'était mieux avant, mais est-ce qu'il y a quand même des choses qui, selon vous, étaient mieux avant ? Par exemple, vous qui êtes fumeuse, fumée, c'était mieux avant ?
Moi, je fume toujours. Hein, donc, oui, bah, voilà. Non, bah, c'était plus facile avant, on va dire. Pas, peut-être pas mieux, mais plus facile, parce qu'on fumait partout, etc. Maintenant, je reconnais... que c'est vraiment une saloperie qu'on nous a mis dans ces clopes et que je suis addict, quoi. S'arrêter, c'est compliqué. Mais je comprends aussi pour les gens qui travaillent dans les restaurants, dans tous les endroits publics, où ils doivent être, eux, contents de respirer une bonne fois. Et voilà, ça change les choses. Mais là, il faut accepter que les choses changent.
Alors, vous qui avez connu Harakiri, l'humour, c'était mieux avant, Michel Bernier ?
Oh, j'en ai marre de ça.
De cette question ?
Non, je pense vraiment... Moi, je dis toujours que... Charlie Hebdo et Harakiri ont existé parce qu'eux l'ont voulu. Et que c'était à une époque d'une France très conservatrice. C'est quand même jeune général de Gaulle. On n'était pas du tout dans un mood très, très joyeux à ce moment-là. Et que, comme disait Cavana, ils n'avaient pas le droit de le faire non plus, mais ils l'ont fait quand même. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, l'humour, c'est le faire quand même, que ça plaise ou pas. Je veux dire, on voit bien que ce soit nous, les filles, on dit ce qu'on veut sur scène, on dit ce qu'on veut quand on veut. Jérémy Ferrari, Gaspard Proust et plein d'autres. Et vous, messieurs, je veux dire, je pense qu'on essaie de nous faire croire à un monde aseptisé, etc. Alors, il l'est peut-être dans certains endroits parce qu'il y a trop d'argent en jeu, la publicité, etc. Mais je pense qu'il y a plein d'endroits où les gens disent ce qu'ils veulent. Et tant mieux, après c'est au public de faire son choix.
Et les mecs, c'était mieux avant, Michel Bernier ?
Bah, c'était mieux avant, parce que j'étais plus jeune.
Les mecs, c'était mieux avant, pardon, je n'ai pas entendu.
Bah, j'étais plus jeune, donc c'était plus facile avant.
Ouais. Ah oui ?
Bah, maintenant, passer 60 ans, quand même, c'est compliqué. Hein. Comme je le dis dans le spectacle, on est un peu dans un no man's land, nous les femmes. Hein. Il y a un truc. On n'est plus dans le circuit de la séduction, les hommes ne vous regardent plus de la même manière, ou alors les très très vieux. Parce qu'on est assez jeunes pour eux, mais que c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui. Je trouve qu'il y a un truc comme ça, à 60 ans, c'est un âge un peu bizarre. Ouais, vraiment.
Vous êtes bien ?
Moi, je suis bien, mais eux ne le savent pas. Non, mais c'est vrai que c'est un âge bizarre, parce que moi, tous les copains qui ont mon âge, quand ils se séparent de leurs femmes qui ont donc mon âge, généralement, je les vois arriver avec des nanas qui ont au minimum 20 ans de moins. Donc, suite à milliers de conversations qu'on a eues avant, en disant, mais non, pas du tout, mais moi, jamais, blablabla. Bla, 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 bla. Donc, quand ils ont 70 ans et qu'ils ont des bébés de 2 ans, je ne comprends pas non plus. Ben, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de brouillard, là.
Et vous, un garçon qui a 30 ans de moins,
avec
et
une casquette.
Mais moi, il n'y a aucun problème. Ouais. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, c'est les garçons qui en ont.
Vous avez une enfance un petit peu particulière ? Vous étiez fille unique ?
Oui, fille unique, fille de professeur Choron et de Odile Vaudel, voilà. Donc, avec des tontons un peu bizarres comme Rezer, Cavana, Cabu, Wolinski, Jean Topor. Enfin bon.
Alors après, vous avez été dans une école La Fontaine, qui était très difficile.
Rue La Fontaine.
Rue La Fontaine. Voilà. Et là, ça s'est pas très bien passé parce que la directrice vous avait pris en grippe. Un peu.
Bah, tout le monde me détestait dans cette école.
Mais pourquoi ?
Parce que mes parents n'étaient pas mariés. Que mon père c'était le diable et donc ben voilà
vous aviez quel âge 6 ans
bah ouais 7 ans
et vous osez pas dire à votre maman que ça se passe mal en fait
j'osais dire à personne que ça se passait mal parce que je me suis dit mes parents s'ils savent que je suis maltraitée comme ça ils vont aller leur casser la gueule et ça sera pas bon non plus donc je me disais souvent les enfants on dit rien à ses parents parce qu'on veut pas d'histoire parce que c'est déjà assez compliqué à vivre. Donc, j'étais pas martyrisée, mais j'étais pas aimée, j'étais pas...
Vous pleuriez tout le temps ?
Je pleurais beaucoup,
oh
mais...
Oh là là, je vous imagine, avec votre petite joue.
Non, mais il y avait quelque chose de... Oui, et
parce
puis,
que vous étiez atypique, vous rentrez.
J'étais atypique. Et d'ailleurs, en fait, les trois copines que j'ai eues à ce moment-là, avec lesquelles, surtout une avec qui je suis encore copine, c'est pour vous dire, en fait, on était un peu les deux vilains petits canards. Et c'est les vilains petits canards font des troupes de petits canards. Et non, mais c'est, ça fait une façon de fonctionner qui ne nous correspondait pas.
Elle vous mettait à genoux sur des règles.
Ah, ben oui, sur les règles. Ça, je pense qu'on en a quelques-uns à l'avoir vécu. Voilà. Non, mais il fallait avoir la blouse écrue. Et pas blanche, un petit peu délavée, ou voilà, c'était avec le nom
écrit, brodé.
Écrit, brodé, pas brodé chez le mec qui fait tous les broderies, non, brodé à la main, soit enfin, tout un truc un peu bizarre. Ça m'étonne pas que 68 soit arrivé après, parce que on devenait dingue avec ces espèces de règles un peu bizarres, là, excessives.
Et là, du coup, vos notes chutent, vous...
Ah bah, badaboum, blam, pion. Alors, s'il y avait pu, si on était 31 dans la classe, j'aurais pu être 32, 33, 34, je sais pas. Les radiateurs étaient encore beaucoup trop près, oui.
Et alors, après, vous demandez à aller en pension, et là, vos notes remontent d'un coup.
Ah bah là, c'est le bonheur absolu. Là, je suis dans une pension à Draveil, en banlieue parisienne, une pension laïque et mixte.
Ah. D'où la formidable.
Voilà. Tous les notes qui remontent.
Il n'y a pas que les notes qui remontent.
Ah bah ça a mis tout le monde en folie.
Vous aviez quel âge là?
Je suis arrivée, j'avais 12 ans.
Ouais. D'accord. Et là, vous revivez.
Et là, je revis. Je suis heureuse. Moi, je suis pas une solitaire. Donc, le fait d'être avec des gens tout le temps, moi, ça me convenait parfaitement. Et puis, on n'était pas nombreux par classe et on s'occupait bien de moi. Et personne ne m'en voulait d'être la fille du professeur Choron. Et c'était pas grave que mes parents soient pas mariés. À ce moment-là, j'ai commencé à porter le nom de mon père. Ce qui a aussi certainement arrangé les choses pour moi. Parce que pendant longtemps, j'ai porté le nom de ma mère. Parce qu'il y a une époque, mes petits-enfants, en fait, les gens qui n'étaient pas mariés ne pouvaient pas reconnaître à deux leur enfant. Donc on était nés soit de père inconnu, soit de mère inconnue. Donc quand je suis venue au monde, c'est ma mère qui m'a déclarée. Donc j'ai porté le nom de ma mère jusqu'à l'âge de mes 12 ans, 13 ans. Et la loi est passée comme quoi deux parents pouvaient avoir la même autorité parentale, ce qui fait que je me suis appelée Bernier assez tard. Voilà. Et donc certainement que ça m'a aidé aussi en rentrant à l'école à avoir un... Voilà, je me sentais peut-être un peu plus dans la normalité.
Après, vous avez voulu être avocate ?
Oui.
Parce que comme votre père avait des procès tout le temps, vous...
Tout le temps.
du coup, vous connaissiez bien les lois et les avocats, les lettres commandées, les huissiers.
Oui, c'était les huissiers, les avocats, les tout ça. C'était
les soucis d'argent,
à la maison,
tout ça.
Tout le temps. Mais en même temps, je pense que le métier d'acteur ou de comédien, c'était quelque chose qui était un peu loin. Il y avait moins de gens à la télévision. Déjà, c'était quand même des acteurs de télé. On avait l'impression que tout était loin, qu'on n'arriverait pas à toucher ces gens-là. Le cinéma, n'en parlons pas. Et moi, je me disais, mais ça doit être un trajet de dingue pour un jour être acteur ou actrice. Donc, j'ai laissé un peu ça de côté. J'ai quand même pris un peu de cours de théâtre. Et puis, je voyais que ça faisait tellement plaisir à mon père d'avoir un avocat gratuit que...
Moi, j'ai des hommes à vous présenter, Michel Bernier.
S'il vous plaît.
Ils ont décidé de vous séduire tous les trois.
Allez,
et alors, vous choisirez votre préféré.
Très bien.
On commence par qui?
Allez. Michel, moi, j'ai envie de vous emmener en voyage. On partirait tous les deux. On irait. Mais mets un peu de musique là pour mettre une ambiance. Voilà. On irait visiter la Grande Muraille de Chine tous les deux. On irait à Pékin.
Ça sent le plan 4.
Visiter la cité interdite, l'Érysée, à manger des nems. Et puis après, on chopperait le coronavirus. Comme ça, quand on rentre en France, on est en quarantaine tous les deux. On serait confinés tous les deux. Ah, on serait bien. Qu'est-ce que vous en pensez?
Qu'est-ce qu'on serait bien? Ouais.
Ça fait envie?
Ouais.
Je vous laisse réfléchir. Ne dites pas oui tout de suite.
Non, je prends mon temps.
Prenez le temps de la réflexion parce qu'il y a quand même un projet derrière tout ça qui est intéressant.
Ben H.
Oui, alors moi, si je devais séduire Michel Bernier, je crois que je resterais simple, naturel, décontracté, détendu, poète. Bref, je resterais moi-même. Et j'essaierais surtout de ne pas trop en faire. Michel Bernier, bonjour. Michel, sachez-le, mes mensurations physiques apparentes sont un trompe-l'œil. Ici, dans la bande, on m'appelle le candidat à la mairie de Paris. Et je vous le dis tout de suite, c'est pas pour la taille de ma cravate. Oui, tel un iceberg, ma partie immergée reste la plus impressionnante. Mais nulle envie de vous baratiner ce matin avec ce superficiel argument. Michel Bernier, vous n'êtes pas de ces femmes à qui l'on ment. Alors je ne vais pas vous promettre mille et une merveilles, non, je les aurais oubliées, sans doute d'ici 12 heures. Mais en revanche, je me battrai pour le rôle du soleil si vous devez jouer celui de la fleur.
Oh, alors
je vais fondre.
Quel poète.
Même moi, j'ai fondu. Je te jure, j'ai envie de chialer.
Et c'est à Sacha Judas que de vous séduire, Michel Bernier.
Alors Michel, nous, on a fait la même émission pendant pas mal de temps, il y a quelques années. Pendant un petit moment, on s'est pas revus. Donc, on s'est connus, on s'est reconnus. On s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue. On s'est retrouvés, on s'est reparlés. Je me suis mis à chanter. Cette émission est de bon augure. Je vous propose une aventure. Vous aimez bien mon écriture. Elle sera pour vous un jour, c'est sûr. C'est ma déclaration d'amour.
Bravo.
Alors vous choisissez qui, Michel Bernier?
Les hommes sont bien quand même.
Bah oui.
C'est dur de choisir là.
Tout sauf les trois.
Allez,
bling, dans l'ordre.
Non mais en ce moment, comme on peut être vite en quatorzaine.
Oui.
On va s'ennuyer, donc à trois on peut se débrouiller.
Vous avez un grand lit?
Ouais.
Super.
Vous êtes heureuse de l'affection incroyable que vous porte le public?
Oh ben, j'en reviens pas. C'est toujours impressionnant, ça. Les démonstrations d'amour sont toujours très émouvantes.
Qu'est-ce que vous disent les gens dans la rue, Michel Bernier?
Merci. Je crois que c'est le mot le plus que j'entends le plus. C'est merci d'être... Parce qu'en fait, il y a un côté... quand on ne dit pas je suis féministe ou je ne milite pas, je ne suis pas comme ça, mais où à travers les spectacles, on essaye d'exprimer ce que c'est que d'être une femme aujourd'hui à tous les âges, de tous les styles, avec ses rondeurs, avec pas les femmes comme on voit dans les magazines, etc. J'ai l'impression qu'on a fait évoluer les choses malgré tout et qu'on déculpabilise toutes ces femmes qui ne se sentent jamais à leur place. Soit parce qu'elles n'ont pas assez dit ou pas assez fait, et qu'il y a un truc culpabilisateur dans ce monde, je trouve, que trop violent. Et je pense qu'à travers ça, ça fait comme une respiration d'être une actrice comme je suis. Je pense
mais il y a ce que vous dégagez aussi.
Oui, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas...
Vous vous rendez compte de ce que vous dégagez?
Mon fils, il me dit ça tout le temps.
Il dit quoi?
Il dit, maman, mais tu ne te rends pas compte. Je crois que maman, tu ne te rends pas compte. Je dis, ben non, mon cœur, écoute, tant mieux si je ne me rends pas compte.
Non, mais c'est vrai, il y a...
Je ne sais pas quoi dire. J'essaye d'être ce que je suis, donc ce n'est pas toujours... Je ne suis pas calculatrice. Donc je pense que ça doit se ressentir. Je n'ai pas de stratégie, je ne sais pas le faire. Je suis nulle en maths, donc je serais une très mauvaise stratège. Mais j'ai l'impression tout le temps que tout ce que je fais et qui finit par toucher les gens, c'est cadeau, quoi. Donc de voir encore mon nom en haut devant un théâtre, ça me fascine de voir mon nom sur la loge. Je me dis, oh, mais c'est moi. Ah oui.
Vous êtes toujours émerveillé de faire ce métier, Michel Bernier.
Mais j'en reviens même pas. Parce que vu toutes celles qui en bavent, franchement, de devenir des squelettes, de se faire de la chirurgie esthétique, toutes ces jeunes filles qui veulent devenir des vedettes et tout ça, je me dis, mais non, moi aujourd'hui, à 63 ans, je fais le métier que j'aime encore, ça marche, je fais une série qui cartonne. Je veux dire, on ne me demande pas d'être autre chose que ce que je suis. Merci la vie, quoi.